Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Parmi les types de cancers les plus fréquents chez la femme en RDC, on note, on signale le cancer du sein et celui du col de l'utérus. D'après les spécialistes, une femme a plus de chances d'être guérie de ces tumeurs malignes lorsque le dépistage s'est fait de manière précoce. Alors, quelles sont les causes de ces cancers et quel est le traitement approprié? Quels sont les signes pour reconnaître la présence de ces cancers? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Dr Moussa Firi, évariste, coordonnateur de l'ONG Les Ailes du Cœur, et secrétaire général du consortium des ONG de lutte contre le cancer. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
C'est dans deux jours, d'ailleurs, qu'on va célébrer la journée internationale de lutte contre le cancer. C'est le 4 février.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ça tombe bien pour nous.
Voilà, ça tombe bien. Et qu'est-ce qui est prévu, en passant?
Oui, il est prévu une conférence d'information, des sensibilisations, des plaidoyers. Au niveau de l'hôpital du cinquantenaire avec tous les acteurs dans le domaine de la lutte contre les cancers.
Bien, on signale que y a deux types de cancers qui attaquent souvent les femmes dans notre pays, le cancer du sein et du col de l'utérus.
Oui.
Parlez-nous des causes de ces deux cancers qui touchent bon nombre de femmes dans notre pays.
Oui, merci. Il n'y a pas que ces cancers-là, mais nous devons signaler seulement que ce sont les plus tueurs, ce sont les plus meurtriers. Parce que ces cancers touchent la femme à différents moments de la vie. Mais s'il faut parler des causes, d'abord, nous savons le cancer. Le cancer, c'est quoi? Le cancer est une maladie due à la multiplication désordonnée, continue et non contrôlée des cellules d'une partie du corps humain. Et ça peut toucher toutes les parties du corps humain. Donc, les cancers ne visent pas seulement le sein et le col de la femme. Mais ces deux pathologies sont plus criantes parce que ce sont chez la femme, parce que le sein, autant que le col et l'utérus, sont des organes nobles liés même à la féminité. Le cancer de sein, dans notre pays, le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent, en fait. Et ailleurs, c'est le contraire. C'est le cancer de sein dans le monde qui est le plus fréquent. Ces cancers sont le plus meurtrier puisque, de par le monde, chaque année, il y a approximativement 1 380 000 femmes qui contractent un cancer de sein.
Chaque année?
Chaque année. Approximativement 1 380 000 et près de 450 à 500 000 décès sont liés à ces cancers-là. La mortalité, maintenant, en Afrique subsaharienne est encore plus élevée. 80% des cancers de sein ou de col de l'utérus se déclarent plus en Afrique subsaharienne. Et la mortalité aussi, c'est de même. Il y a plus de femmes qui en meurent dans notre pays faute de détection ou de dépistage précoce. Les causes,
malheureusement, chez nous, on n'a pas les statistiques, des données fiables par rapport à...
C'est ça le problème. Nous allons y arriver puisque il n'y a pas de registre des cancers, il n'y a pas un système de collecte des données. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Mais je reviendrai à votre question par rapport aux causes. Mm-hmm. Les causes du cancer de sein ne sont pas, il y a des causes qui sont communes à tous les cancers, mais il y a des causes qui sont spécifiques. On commence d'abord par les cancers de sein. Dans le cancer de sein, la première cause, nous allons parler d'une cause héréditaire. Il y a un facteur héréditaire, en fait. Il y a un gène qui peut être transmis de la mère à la jeune fille. C'est le breast receptor gene cancer. Et c'est quand ces gènes-là, une fois la mère le transmet, la fille qui reçoit ces gènes a plus de 60% de probabilité de développer un cancer lors de sa vie féminine. Ouais. En dehors de ces du facteur héréditaire, il y a plus de facteurs que nous incriminons par rapport au mode de vie. Le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation, les cosmétiques, tout ce qui nous entoure, les téléphones, ainsi de suite. Prenons par exemple le cas de l'alimentation. Aujourd'hui, il a été scientifiquement prouvé que l'obésité a une incidence sur la survenue des cancers de sein. Donc, la présence des cholestérol, des acides gras saturés à forte concentration peut entraîner un cancer de sein. Oui. Dans l'alimentation, toujours, il sait que nous sommes en train de... Il y a des produits qui sont surgelés, trop conservés, qui contiennent du formol et tout ça. Ça pose de problèmes. Dans les cosmétiques, nous allons citer, par exemple, le parfum qui contient du chlorhydrate d'aluminium. Le chlorhydrate d'aluminium était un produit qui est déjà proscrit sous d'autres essieux. Le chlorhydrate d'aluminium que nous retrouvons dans des parfums, des eaux de toilette, ainsi de suite. Dans le rouge à lèvres et autres maquillants, il y a le nitrate de plomb. Les nitrates de plomb, ce sont des métaux lourds qui sont aussi connus comme étant
oncogènes. Ça se retrouve dans les maquillants.
Dans les maquillants comme le rouge à lèvres, il y a le nitrate de plomb. Ouais. Avec tout ça, ça expose la femme, en fait, à développer ces cancers-là. Mais aussi d'autres types de causes. Parmi ces causes-là, il y a des causes par rapport à la femme, à la vie génitale. Par exemple, les quatre femmes trop. Les grossesses trop précoces, trop rapprochées, les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop tardives. Ça, ces quatre trop aussi exposent la femme. Plus la femme fait des enfants très tôt, plus elle est exposée à faire des cancers de ça. Plus elle en fait très tard, elle est exposée. Plus elle en fait de façon anarchique, donc nombreuse, elle est exposée. Il y a ces quatre trop-là, par exemple. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà un peu l'essentiel, les causes par rapport au cancer de ça.
Mais certains disent que les causes ne sont pas vraiment très, très, très bien connues.
Oui.
Ça, ce ne sont que des facteurs, mais les causes, les vraies causes, ne sont pas identifiées.
Oui, ce sont des facteurs de risque, en fait. Ce sont des facteurs de risque, mais qui sont tellement, de plus en plus incriminés à telle enseigne qu'on commence à les rapprocher à des causes, puisqu'il a été démontré que, par certaines expériences, le fait d'éviter ces facteurs de risque-là arrivaient à sensiblement, réduire la probabilité de développer un cancer. Le sein, par exemple. Pour le cancer du col, au moins, il est connu. Il y a un facteur viral. C'est un virus qui est d'abord incriminé. C'est le human papillomavirus ou le VPH, le virus du papillon humain. Ces virus-là, chez la femme, il y a deux sérotypes qui peuvent provoquer le cancer. Il y a les sérotypes 16 et les 18. Donc, deux types chez nous qui peuvent provoquer ces cancers du col de l'utérus. Et ces virus, quand il arrive à trouver d'autres cofacteurs, donc il arrive dans un milieu où, dans un milieu féminin génital où l'hygiène est déficiente, où l'immunité est déficiente, par exemple sur un terrain de VIH, SIDA ou autre infection, ces virus a la forte probabilité de pouvoir conduire au cancer. Mais quand même, nous allons le signaler, il n'y a que 10% des femmes qui ont contracté le VPH qui peuvent arriver à développer un cancer du col de l'utérus. Donc, c'est pas dans tous les cas.
10% seulement.
10% seulement.
Deux auditeurs en ligne, Madame Pacifique est à Kinshasa. Fiston nous appelle de Colésie. Madame Pacifique, bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur, je dis bonjour à l'invité.
Bonjour, madame.
J'ai quelques questions. Je ne peux pas aller aussi trop parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. La première question est de savoir. Quand on peut manifester, le cancer peut se manifester chez une femme, donc dans les corps féminins, c'est-à-dire un enfant, peut-être une fillette qui peut avoir 3 ans, 6 ans, est-ce qu'elle peut avoir déjà le cancer, je ne sais pas, de l'utérus, si je peux dire, en développement. Deuxièmement, il y a de ces choses aussi qui se disent, hein, pas les experts, mais chez les dames qui se disent que les donc du cancer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce aussi une femme qui vient à peine de s'accoucher, de donner naissance, peut pouvoir se préserver de cancer en refusant de répondre le rapport très tôt? C'est ça mes questions.
D'accord. Une femme qui vient d'accoucher, est-ce que l'un des moyens d'éviter les cancers, c'est de refuser les rapports sexuels très tôt avec son partenaire? Voilà, l'invité nous le dira tout à l'heure. Augustin Chabani, vous êtes fiston. D'abord, fiston à Colésie. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui.
Allô? Oui, je remercie d'abord l'invité du thème qui vient de nous présenter tout de suite. C'est un thème si intéressant.
Merci, fiston.
Oui, je voulais d'abord poser la première question de savoir quelle est la stratégie que cette ONG a prise pour que ces différentes activités se retrouvent aussi dans les recoins, dans les provinces du pays. Parce que ici à Colésie, présentement, par rapport aux causes qu'il a énumérées, nous avons toujours les femmes qui présentent des difficultés.
D'accord, merci. Augustin Chabani de Kindu, bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Journaliste.
On vous écoute.
Allô?
Allez-y. Oui,
je voulais demander à notre invité les moyens de dépistage d'un cancer du col de l'utérus. Puisque aujourd'hui, nous regardons devant nos filles, ils ne sélectionnent pas des pistes trop facilement, puisque c'est difficile de déposer des spéculums chez une petite fille.
Voilà le moyen de dépister.
J'ai aussi une autre question.
Oui.
Oui, la fille à prendre devant le stade 3 et le stade 4 d'un cancer du col de l'utérus.
Oui, quelle est la question?
L'attitude à prendre.
D'accord.
La conduite à tenir devant le stade 3 et le stade 4. Oui.
D'accord, merci. Augustin, en revenant à la question de Madame Pacifique, une fillette, est-ce qu'une fillette de 3 à 6 ans peut développer des cancers?
Oui, la question de Madame Pacifique est pertinente parce que malheureusement, nous avons des cas, généralement il y a des cas de cancers qui se développent très tôt dans l'enfance, des cancers en traitant en pédiatrie, par exemple les rétinoblastomes et tout ça, cancer de l'œil et tout ça, des leucémies par exemple. Mais les cancers du col de l'utérus, nous avons, c'est assez rare chez les enfants, les jeunes fillettes, mais nous avons quand même reçu déjà quelques rares cas, 2 ou 3 de filles de moins de 6 ans qui ont développé un cancer du col de l'utérus.
Voilà, mais c'est très rare.
Très rare.
Voilà. Madame Pacifique dit, elle dit que ça se dit dans le milieu entre les femmes, les préservatifs, d'après elle, les préservatifs favorisent la survenue du cancer du col.
En tout cas, jusqu'aujourd'hui, les études scientifiques que nous avons suivies, les recherches que nous avons faites sur dans le monde scientifique ne nous rapportent aucun élément en rapport avec cette incidence-là, ces liens-là de cause à effet. Et donc, je ne sais me prononcer sur ça.
Alors, une femme qui vient d'avoir son bébé, d'après elle, c'est ce que les femmes se disent, pour éviter les cancers, il faut refuser, s'abstenir des rapports sexuels avec son conjoint pendant un moment.
Non, en tout cas, il y a pas de rapport entre l'abstention au rapport sexuel et l'évitement du cancer du col ou du sein.
Fiston de Colésie vous pose la question, quelle stratégie pour qu'est-ce qu'il faut pour que votre organisation aille jusque là-bas, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont touchées par ces cancers.
Oui, la préoccupation de Fiston nous touche personnellement, puisque nous savons, nous recevons des demandes, nous recevons des invitations de par tous les pays, on nous demande de faire la même chose que Fiston nous a demandé. Malheureusement, nous sommes limités par les moyens. Nous sommes limités par les moyens parce que nous sommes des organisations de la société civile. Nous venons en appui. Nous venons de la part de la population pour solliciter auprès du gouvernement et des partenaires internationaux l'aide nécessaire pour venir en aide à cette population-là. Mais jusque-là, notre problème demeure que la question du cancer n'a pas encore été intégrée, n'a pas encore été considérée dans notre pays comme étant une question prioritaire de santé publique. Et tellement que la question est négligée, tout ce que nous
on n'a même pas de programme de lutte contre le cancer.
Malheureusement, c'est ce qui est ahurissant. Monsieur Jeudi, il n'y a pas de programme de lutte contre le cancer, il n'y a pas de politique nationale contre le cancer. Nous nous sommes battus avec les autres amis, les activistes, le ministère de la Santé nous a quand même aidés. Nous avons mis sur pied une stratégie nationale de lutte contre le cancer, mais qui jusque-là, malheureusement...
C'est dans les tiroirs.
Oui, malheureusement.
Malheureusement. Voilà, et Chabani de Kindou dit quel est le moyen et comment dépister le cancer de l'utérus. Quels sont les moyens utilisés pour le dépistage?
Oui, pour le dépistage des cancers du col utérin, il y a d'abord la clinique. Donc la clinique va nous aider quand même à avoir une idée nette. Parce que avant d'aller, comme Fiston l'a dit, poser les spéculums et les autres actes médical, technique, il faut d'abord commencer par quelque chose de simple. Il faut voir les signes. Les signes d'un cancer du col de l'utérus, il y a plusieurs signes. D'abord, il y a des signes qui sont précoces. On remarque, par exemple, que les lécorées deviennent un peu très très abondantes. On remarque par moment des spotting, ça veut dire des pertes de sang sur les sous-vêtements des femmes et tout ça. On remarque des pertes de sang en dehors des périodes des règles. Et quand une femme vient avec ces tableaux-là, avec cette clinique-là, ces plaintes-là, c'est par après qu'on peut commencer maintenant les investigations. Et dans nos investigations, nous allons commencer par l'inspection visuelle, par exemple. Nous allons chercher à observer le col de cette femme. Vous voyez. Mmh. Donc, si une fille vient, nous commençons d'abord par cette étape et puis après, nous allons passer par l'inspection visuelle du col utérin, soit par l'acide acétique, soit l'oligol.
Bien, Chabani dit, quelle attitude prendre lorsqu'on est en face d'un malade avec un cancer déjà au stade 3 ou 4? Alors, quels sont les différents stades de développement d'abord du cancer pour nous permettre de mieux comprendre?
Oui, chaque cancer, bon, puisque nous parlons des deux, il y a le cancer du col de l'utérus. Lui est classé selon la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens en 4 stades. Il y a le stade 1, 2, 3, 4. Et dans chaque stade, bon, nous n'allons pas entrer trop en profondeur, mais dans chaque stade, il y a des sous-stades. Mais l'essentiel, il y a 4 stades pour le cancer du col de l'utérus. 1, 2, 3, 4. Le stade 1, nous sommes au niveau du col. Le stade 2, nous commençons à dépasser le col de l'utérus. Nous allons jusqu'au tiers du vagin. Dans le stade 3, la paroi vaginale est touchée. La paroi pelvienne aussi est touchée. Et dans le stade 4, il y a le cancer se répand. Il se métastasie. Il envoie des métastases un peu partout dans la vessie, les rectums. C'est vraiment le stade final. Dans n'importe lequel de ces stades-là, surtout le stade 3, on peut traiter. On peut traiter malheureusement dans des unités très spécialisées où on peut faire la chimiothérapie, on peut faire la radiothérapie, on peut essayer de faire une chirurgie au possible. Mais au stade 4, vraiment, c'est plus les soins palliatifs. Donc, c'est
on sait plus rien faire.
On sait absolument rien faire.
Oui.
La personne, le colon est envahi, le rectum est envahi, la vessie est envahie, donc on fait un accompagnement.
Jusqu'à ce que la personne va rendre l'âme.
Malheureusement, c'est même la raison d'être de cette émission. C'est pourquoi nous remercions encore une fois de plus Radio Capi pour l'opportunité qu'elle nous accorde de pouvoir attirer l'attention de la population sur la détection précoce.
Et généralement, qu'est-ce qui arrive surtout pour les femmes par rapport au cancer du sein, par exemple? Est-ce que la plupart viennent consulter dès l'apparition des premiers signes ou elles viennent souvent en retard?
Malheureusement, les femmes viennent avec un stade déjà avancé. Déjà, quand un nodule, c'est-à-dire les femmes viennent, elles disent « Docteur, j'ai sens l'impression d'une boule, une masse au niveau de mon sein. » Et la plupart des boules dépassent déjà 3 à 5 cm. Or, quand ces nodules-là a déjà 1 cm de diamètre, nous craignons déjà que le cancer commence à se métastasier, c'est-à-dire à se répandre dans tout l'organisme. Donc malheureusement...
Donc c'est ça les signes qui permettent de comprendre, de savoir s'il y a un cancer du sein. Une boule au niveau du sein?
Oui, une boule, une masse, mais qui ne confirme pas toujours un cancer de sein, puisque ce n'est pas spécifique. Ça peut être une fibrose, ça peut être un abcès, ça peut être toute autre maladie, mais... On va voir maintenant l'association des signes. Mais parmi les signes d'appel, il y a des signes par rapport à l'anatomie de la peau autour du sein, par rapport au mamelon, la coloration. Une femme qui, en dehors de période de lactation, c'est-à-dire elle n'a pas d'enfant, au niveau du mamelon, elle perd du liquide, un liquide blanchâtre ou un liquide de couleur louche. Ça doit attirer l'attention de la femme. Une femme qui tout le temps a l'habitude de se gratter au niveau du sein, ça doit attirer l'attention de la femme. Donc voilà un peu.
Voilà, c'est autant des signes, mais ce qui est bien, si on consulte à temps, on fait les dépistages à temps, la femme a plusieurs chances d'être guérie.
Détecter précocement, tous les cancers peuvent être guéris à 100%.
Voilà. Est-ce que vous envisagez une campagne de dépistage ces jours-ci ou bien... Je sais pas, est-ce qu'il y a des actions, des activités pareilles,
oui,
des campagnes de dépistage?
Nous avons des campagnes de sensibilisation, ça vous savez, nous les faisons tout le temps. Mais il y a maintenant cette épée de Damoclès sur notre tête. On peut pas simplement sensibiliser une personne, la rendre consciente du danger et puis ne pas pouvoir lui accorder l'opportunité de se dépister. Mais le dépistage, malheureusement, coûte assez cher. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, on fait des actions, des micro-actions, des actions à portée limitée.
Allez parfois voir les mamans du marché.
Oui, nous allons voir.
Massina.
Oui, à Njili, au marché de la Liberté. Nous allons à Zando, à Gambela, par-ci, par-là. Les femmes qui n'ont pas l'information, elles rentrent tard, il n'y a pas d'électricité, elles ne suivent pas la télévision, elles ne suivent pas peut-être Radio Capi.
C'est ça.
On va à la proximité pour des campagnes de sensibilisation. Mais pour la détection précoce, une fois de plus, nous en appelons à plus d'engagement. C'est même le thème de cette année, de la Journée internationale du cancer, à plus d'engagement politique, parce que ce sont les décideurs politiques qui peuvent vraiment nous aider à remporter la victoire contre les cancers. Nous faisons des actions limitées. Nous pouvons dépister 50 femmes, Mais voyez un peu, 50 femmes sur le nombre de toutes les femmes de la RDC, c'est moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc, plus d'engagement politique, plus d'engagement de la part des partenaires internationaux va nous aider vraiment à faire un grand pas dans la lutte contre le cancer.
Deux autres auditeurs, trois en ligne, Arlin depuis Dungu, Odin, elle nous appelle Mbandaka et Clément Daye de Kananga.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment lutter contre le cancer du sein et du col de l'utérus? Arlin, vous êtes à Dungu. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour Arlin.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, à parler du cancer, je voulais que l'invité me donne les symptômes physiques du cancer avancé.
Voilà, les symptômes physiques d'un cancer avancé. Odin de Mbandaka, bonjour et quelle est votre question? Odin, bonjour. Il n'est plus là. Clément Daye de Kananga, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
Bonjour Clément.
Il est vrai que les cancers, ce sont normalement des maladies qui embêtent les femmes et qui risqueraient vraiment d'embêter aussi les hommes. C'est la raison pour laquelle je voudrais juste demander à l'invité, comme il est expert en matière, mais pour ceux qui ont, certaines filles, femmes, qui ont l'habitude d'utiliser certaines des espèces d'épices, par exemple le cube magie, elles introduisent vraiment ça dans la voie vaginale, soit à l'anus. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences en ce qui concerne vraiment cette pratique? Et aussi la deuxième des questions. Il est vrai que quand la femme est enceinte ou elle est prête à donner naissance, il y a certaines pratiques qu'on utilise aussi souvent. On peut récolter certaines feuilles, que ce soit d'une plante médicinale, et puis on peut filer soit certaines poussières d'arbres pour que la femme puisse vraiment introduire sa voie vaginale. Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences en ce qui concerne des pratiques pareilles? Merci l'invité et merci.
Bien, docteur Moussafi.
Oui, je commencerai d'abord par la question de Arlin.
Arlin, oui, il dit les symptômes physiques d'un cancer au stade avancé.
Au stade avancé, ça dépend du type de cancer. Mais nous prenons par exemple le cancer du col de l'utérus. Ces cancers-là, un stade avancé, c'est-à-dire au stade 3B et le stade 4, c'est le stade d'invasion. C'est-à-dire, il quitte. Le cancer quitte le col de l'utérus, il touche le vagin de la femme, il touche tout l'utérus, il entre dans la paroi vaginale, il dépasse la paroi vaginale, il va jusqu'à la vessie, donc la personne aura des problèmes d'émission d'urine. La personne a des problèmes d'urine, la personne aura des problèmes de constipation chronique et ça peut envahir tout l'organisme. La même chose pour les cancers de sein, ça commence au niveau de sein, ça va au niveau de l'appareil digestif, ça provoque des problèmes.
Ça se répand.
Ça se répand au niveau de poumon, la personne aura des insuffisances pulmonaires, ça va jusqu'au niveau du cerveau, ça entraîne vraiment des dégâts à tous les niveaux. Donc les symptômes physiques du cancer sont horribles même à voir.
Il semble que il y a des pertes des cheveux, la personne perd des cheveux.
Il y a la chute des cheveux, donc alopécie, chute des cheveux. Mais ça, c'est rien, en tout cas, par rapport au reste des symptômes. Il y a une douleur atroce, puisque les métastases envahissent même, les os. Ça envahit les os, ça devient comme une leucémie.
C'est une souffrance énorme.
Une souffrance énorme. Une fois de plus, là, nous insistons sur l'importance des soins palliatifs. Parce que quand bien même on ne sait pas guérir, mais si on pouvait quand même soulager ne fût-ce que la douleur, ça améliorerait la vie des cancéreux congolais.
Et il semble que la personne devient même nerveuse, elle veut même plus voir les gens.
Non, la personne est détachée quasiment de la société, la personne est détachée de son milieu. Donc il y a même importance pour un suivi psychologique, tout ça, parce que la personne se sent abandonnée, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un drame humain sans pareil.
Bien, Clément Daye de Kanangaidi, les femmes ont certaines pratiques, elles introduisent les épices ou les cubes magiques au niveau de la voie vaginale. Je sais pas pour, d'après les informations, c'est pour prendre un peu de volume ou élargir le bassin. Est-ce que cela peut être la base du cancer?
Oui, vraiment, j'ai aimé l'intervention de Clément puisque c'est malheureusement une réalité. Il y a des pratiques traditionnelles dans notre pays qui font dans l'essence même des violences à la femme, mais qui est faite par les femmes sur les femmes elles-mêmes, qui peuvent constituer des facteurs de risque à ce que les femmes développent un cancer du col de l'utérus. Donc l'intromission des plantes médicinales,
de certaines poussières
pour maladies,
pour donner naissance facilement.
C'est dangereux parce que nous allons retenir un peu ces paradigmes-là. Tout traumatisme au niveau du col utérin peut favoriser le développement du cancer du col. Tout traumatisme. Donc, c'est même l'occasion même de décourager, par exemple, les hommes qui prennent des aphrodisiaques en grande quantité juste pour des rapports sexuels mal exécutés, traumatisants, où la femme est en train de se blesser et ça peut entraîner une mauvaise cicatrisation. Ça peut même conduire à développer un cancer du col de l'utérus.
Voilà, Gondele, vous êtes à Isiro, Baudouin Bouillard, à Colézy. Gondele, depuis Isiro, bonjour. Gondele, vous êtes à Isiro, bonjour. Il n'est plus là. Baudouin Bouillard, de Colézy, bonjour.
Allô, bonjour.
Quelle est votre question, Baudouin?
Oui, je voudrais juste demander à l'invité pour qu'il nous dise un peu l'âge le plus possible pour attraper le cancer. La deuxième question, je voudrais demander à l'invité, après avoir attrapé le cancer, soit après avoir été guéri, quels sont les conseils qu'on peut dire pour ne plus encore attraper le cancer? Voilà un peu ma préoccupation.
Bien. Docteur Moussafir.
Oui, merci vraiment pour la question. Par rapport à l'âge, il y avait des fourchettes d'âge. On disait, par exemple, pour les cancers du col et l'utérus, c'est vraiment un cancer lié à l'activité sexuelle. Mais vous comprenez avec nous que autre temps, autre mœurs. Avant, les femmes connaissaient les rapports sexuels peut-être à partir des 18 ans qu'elles étaient exposées, en fait. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles commencent des rapports sexuels précocement. Mmh. Donc, nous ne serons pas surpris qu'une jeune fille qui ait commencé les rapports sexuels à 11 ans puisse, parce que les cancers du col, en tout cas, c'est dans les 7 à 10 ans qui se manifestent. Donc, une fille qui a commencé précocement les rapports sexuels à 11 ans a le risque de développer un cancer du col à 18 ans déjà. Mais avant, on disait l'âge, c'est des 25 à 35 ans. Les cancers de sein, lui, touchaient plus des femmes d'âge avancé. Mais ces cancers, aujourd'hui, sont en train de se juvénaliser. Donc, ils touchent même les jeunes sans distinction d'âge.
Alors, il dit aussi, est-ce qu'une personne guérie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne plus faire des rechutes?
Oui, pour ne plus faire des rechutes, la plus grande stratégie que nous demandons aux gens qui nous consultent, nous parlons du mode de vie. Même dans la prévention, nous disons les modes de vie. Contrôlons l'alimentation, contrôlons les milieux autour de nous, contrôlons juste les habitudes autour de nous et ça peut déjà nous aider à éviter certains types de cancers. Donc quand une personne est guérie, il faudrait un suivi régulier au niveau de l'hôpital pour éviter des rechutes et puis manger bien, manger sain, boire sain, vivre bien. Éviter le tabagisme aujourd'hui, ce qui est à la base de beaucoup de cas de cancer. Le tabagisme, l'alcool à outrance, ainsi de suite.
Et pour lutter contre ce cancer, vous avez dit, quels sont les moyens? C'est le dépistage, le style de vie, le dépistage?
Le meilleur moyen reste le dépistage précoce. Le dépistage précoce, ça veut dire que je ne suis pas malade, je ne sens pas des symptômes du cancer, mais quand même, je vais à l'hôpital, je vais voir mon médecin lui dire que non, docteur, j'aimerais que vous me fassiez un check-up. C'est-à-dire, pour la femme, elle va aller faire la mammographie. La mammographie est un examen simple, une technique non-invasive, qui permet à la femme d'avoir quand même une idée claire de la structure de ses seins.
Il est conseillé. Mais il semble que la femme elle-même, au niveau de la maison, quand elle va à la douche, elle peut palper ses seins pour sentir s'il n'y a pas une boule.
Oui, c'est la fameuse méthode de l'autopalpation des seins par la femme. C'est une technique que nous encourageons beaucoup, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que on a entraîné des femmes à faire l'autopalpation des seins et elles le font bien, mais il y a certaines femmes qui les font de façon superficielle. Et en dépit de ça, il y a des nodules dont la taille ne permet pas une détection par la femme, par les mains comme ça. Il faudrait vraiment la mettre à la mammographie. Donc, on conseille l'autopalpation de sang, mais au moins, chez nous, dans le contexte de notre pays, au moins une mammographie tous les 5 à 10 ans, ça peut déjà aller. Au moins une seule mammographie.
Et par rapport au cancer du col de l'utérus?
Par rapport au cancer du col de l'utérus, il est demandé à une femme de faire un frottis. Un frottis tous les trois ans, elle peut faire un frottis. Ici, dans notre pays, dans notre contexte, nous ne voyons pas ailleurs. Mmh. Dans notre pays, les gens se disent, ah, il n'y a pas d'argent, la famine, la pauvreté. Faire au moins un seul frottis après 3 ou 5 ans, ça
coûte combien, le frottis?
Le frottis coûte moins de $20.
Moins de $20.
Le frottis coûte moins de $20. La mammographie, actuellement, la moyenne, c'est $60. Donc, ça ne représente...
Voilà, ce n'est pas... c'est pas à la hauteur de toutes les bourses. Hein,
c'est ça, malheureusement. Ce n'est pas à la hauteur de toutes les bourses. Mais essayons d'imaginer une femme avec un cancer. C'est un cancer déjà qui est déclaré. C'est pas moins de $5,000 s'il faut traiter. Ici, et surtout pas ailleurs, c'est encore...
Est-ce que par rapport à la prise en charge, nous avons tout ce qu'il faut dans notre pays pour ces cas de cancer?
Oui, actuellement...
Pour une bonne prise en charge?
Actuellement, je peux l'affirmer, nous pouvons prendre tous les cas de cancer ici. Nous pouvons.
Parce que généralement, les gens préfèrent aller en Inde. Hein?
Non, c'est juste par ignorance, les gens ne savent pas. Nous faisons la chimiothérapie en RDC et nous la faisons bien. Vous vous rappellerez peut-être il y a quelques années, des gens venaient d'Afrique du Sud et d'autres parties du continent pour venir être traités ici. On fait la chimiothérapie en RDC, on fait la radiothérapie en RDC, même si pour l'instant il y a qu'un seul appareil de radiothérapie, mais on fait désormais la radiothérapie. En tout cas, c'est possible de traiter le cancer de façon efficace dans notre pays.
Alors l'appareil, le seul appareil dont vous parlez, se trouve où?
Le seul appareil de radiothérapie, à ma connaissance, se trouve au centre Nganda.
À Kinshasa?
À Kinshasa.
Peut-être dans les autres provinces,
non,
ils ont des appareils?
Dans les autres provinces, non. Je ne crois pas. À moins que ça se fasse il y a de cela 3 jours ou une semaine. Mais à ce niveau, le seul appareil de radiothérapie, c'est au centre Nganda.
Alors il y a nécessité d'avoir aujourd'hui un programme national de lutte contre les cancers dans notre pays.
Ce n'est pas une nécessité, je dis. C'est une urgence.
Une urgence, d'ailleurs.
C'est vraiment une urgence, puisque les autres pays africains ont compris le fardeau qui représente le cancer aujourd'hui. Les cancers, ça touche. Bon, j'ai suivi Clément qui a dit ça touche les femmes. Non, il y a des cancers qui touchent les hommes. Il y a les cancers de la prostate. Il y a les cancers du côlon. Il y a les cancers, plusieurs types de cancers. Et aujourd'hui, les cancers est un problème
de santé publique.
De santé publique. Nous n'allons pas citer les autorités qui sont mortes de cancer. Nous n'allons pas citer le mari de Céline Dion, René Angélique, qui vient de mourir d'un cancer de la gorge. Nous n'allons pas citer Angelina Jolie, par exemple, qui a fait une ablation des deux seins pour éviter de mourir du cancer. Donc c'est, même ailleurs sous d'autres cieux, c'est un grand problème. Et les gens prennent les mesures qu'il faut, en tout cas, pour éviter les conséquences désastreuses de ces cancers. Mmh. Nous saluons, l'intérêt que porte la première dame du pays, Madame Olivelembe Kabila, qui, le mois d'octobre passé, a répondu à l'invitation de la première dame du Gabon et elle allait courir au marathon Octobre Rose organisé au Gabon. C'est pour dire qu'il y a quand même des gens qui sont sensibles à la question, mais nous devons maintenant nous unir tous comme un seul homme, les politiques, les activistes, la société civile, tout le monde, afin que vraiment nous ayons une politique nationale, un programme national de lutte contre le cancer dans notre pays.
Bien, docteur Évariste Moussafiri, coordonnateur de l'ONG Les Ailes du Cœur et secrétaire général du consortium des ONG de lutte contre le cancer, merci.
Merci, Jody.